Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et voici l'épisode numéro 78. Cette semaine, nous revenons sur la 105e édition des 500 000 d'Indianapolis, remportée de main de maître par Elio Castroneves, qui est passé à l'histoire en passant. Alors, ladies and gentlemen, start your engines! Alors bonjour et ou bonsoir, peu importe où vous êtes où nous écoutez. Bienvenue à ce nouvel épisode du Bulletin GP. Avant de parler de cette fête de la course automobile, que sont les 500 000 d'Indianapolis, nous avons eu malheureusement une triste nouvelle avec le décès du motocycliste suisse Jason Dupasquier qui a succombé à ses blessures à l'âge de 19 ans, des blessures subies lors des qualifications de la Moto 3 dans le Grand Prix d'Italie à Mugello. C'est malheureusement un rappel pour dire que la course automobile est et sera malheureusement un sport très dangereux à pratiquer. Il n'existe pas de risque zéro. Alors, qu'on le veuille ou non, même si on améliore et avec raison tout ce qui est sécurité en fait, on peut pas empêcher malheureusement la faucheuse de venir dans la cour du sport automobile. Alors, je voudrais, en mon nom personnel et ainsi que au nom du bulletin GP, offrir toutes mes sincères condoléances à la famille et aux proches, ainsi qu'aux adversaires de Jason Dupasquier, qui nous a malheureusement quittés beaucoup trop tôt. Donc, on va passer maintenant de cette tristesse vers, comme je le disais, la fête de la course automobile, que sont les 500 000 d'Indianapolis. Et pour parler de cette 105e édition, j'accueille avec moi Anna Maria Mercado Lopez. Salut Anna Maria.
Salut à deux.
Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Oh oui, ça va très bien, merci. As-tu apprécié ces 500 000 d'Indianapolis?
Oui, j'ai apprécié beaucoup. C'était moins accidenté que l'habitude, mais j'ai bien aimé.
On va le prendre, moins d'accidents, surtout dans les circonstances où on a perdu un compétiteur au cours de la fin de semaine. Je pense que ça se prend bien, puis le spectacle a été très intéressant. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de l'IndyCar des 500 000 d'Indianapolis. Alors, c'est une course, c'est la 105e édition, qui avait lieu devant 135 000 spectateurs, qui est un record pour le plus grand nombre de personnes au cours de la pandémie. Donc, c'est quand même quelque chose et ça a été un très bon spectacle. La course a été remportée par Elio Castroneves chez Myoshank Racing, qui obtient sa première victoire en même temps en IndyCar en tant qu'équipe. Et il termine devant Alex Palou sur Chip Ganassi Racing et Simon Pagenaud sur Penske en troisième place. Alors, c'est une quatrième victoire pour Castroneves, qui rejoint Rick Mears, Hans Pair et AJ Foyt parmi les pilotes qui ont remporté l'Indy 500 à 4 reprises, qui est un record de cette compétition qui a débuté en 1911 au Indianapolis Motor Speedway. À 46 ans, il est même le quatrième plus vieux pilote à remporter une course du Indy 500. Alors, Anna Maria, en général, est-ce que tu trouves que cette victoire de Elio Castroneves, elle est méritée, même populaire, étant donné que c'est un pilote qui est très apprécié autant par les fans que par ses adversaires?
Oui, mais c'était quand même une belle victoire, il était très mérité, il a beaucoup travaillé pour rester là en avant pendant beaucoup de temps pendant la course. Mais que, oui, c'est une belle course et il rejoint la quatrième Indy 500. Et tu as vu quand c'était fini, c'est lui et Montoya qui se donne un gros câlin.
Ouais.
Parce que dice Montoya était là aussi, pour lui c'était comme il essayait de gagner son troisième, mais ouais. il était quand même mal parti.
Ben non seulement Montoya, mais tu avais aussi des pilotes comme Will Power, Simon Pagenaud. Oui.
Dixon qui était très bien en avant et tout s'est mal passé.
Ouais, et on va reparler de Scott Dixon aussi. Qui est parti en pole position et qui aussi a fêté aussi avec Castro Neves. Et d'ailleurs, je pense personnellement, c'était une victoire, c'était le pilote parfait pour le retour des fans au Brickyard, parce que si vous ne connaissez pas Castro Neves, c'est un pilote qui aime célébrer à la manière de Spider-Man, donc qui va monter sur les clôtures pour célébrer avec les fans. Et je pense que ça, c'est un symbole parfait, comme un genre de petit retour à la normale, en fait. Parce qu'on s'entend, la victoire de Takuma Sato l'année dernière devant des tribunes vides, il y avait personne.
Non, non.
Ça enlève un peu le charme de la célébration d'une course qui est difficile à remporter. Il faut se le dire, les 500 000 d'Indianapolis, c'est une question d'expérience, d'intelligence, de gestion. Et quelqu'un comme Castro Neves, qui est un pilote, comme je l'ai dit, très populaire, autant auprès des fans que des pilotes qui le fait, ça a été toute une joie de le voir célébrer avec les fans.
Même si ça me fait très mal.
Ouais, parce que évidemment il y a Alex Palou qui est derrière, qui finit deuxième, et Pato Ward qui est quatrième aussi. Et on va reparler du pilote mexicain. Mais pour revenir spécifiquement à la victoire de Castro Neves, il a quand même été excellent, parce que évidemment, c'est une question d'expérience. Il s'est servi du trafic pour dépasser Alex Palou dans les deux tours de la fin. Et on sait que, pour ceux qui n'ont pas regardé le Indy 500, il n'y a pas de drapeau bleu. C'est tout le monde roule à la vitesse qu'ils vont, puis débrouillez-vous avec pour dépasser les retardataires. Alors, je trouve que Castro Neves a justement utiliser son intelligence de course pour dépasser une voiture qui était clairement plus rapide que celle qu'il avait en ce moment, en la Ganassi de Palou. Alors, toi, Anna Maria, qu'est-ce que tu as pensé, en fait, de cette stratégie de Castro Neves?
Mais disons qu'il la voyait venir déjà, parce que il interchangeait la place à chaque fois, mais c'est sûr que lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il connaît la course, même s'il n'est pas dans la session normale d'IndyCar, il connaît très bien son circuit et tout, mais on ne peut rien l'élever. Je disais, regarde, Palou, il a vendu ça. Mm-hmm. Il vient de faire son deuxième session IndyCar et lui est comme les 46, c'est le double de pas juste de âge, c'est l'expérience aussi, beaucoup d'expérience. Mm-hmm. Mais que, quand même, disons que pour les circonstances, Palou, il était très bon lui, parce que pour un gars qui est son deuxième année, c'est la première fois que lui a un auto assez rapide pour rester là. Lui a sauté sixième, mais il a bien géré ça comme quelqu'un qui a presque pas beaucoup d'expérience non plus. Mais il faut se dire que Elio, c'est Elio. Ouais. On peut y rien faire, mais lui a préparé son coup. Et en plus, il tout raté. Pour Palo, ce qui a fait beaucoup de dommages, c'est l'arrêt de Félix Rosenquist, qui était allé presque à la presque le dernier tour.
Ouais.
Daniel Centur, il a fait son arrêt, il a raté son arrêt aussi, fait qu'il est celui qui a causé tout le trafic en avant.
Ouais, exactement, parce que dans les derniers tours, il y avait Takuma Sato et Felix Rosenqvist qui étaient les premiers, mais ils devaient s'arrêter parce que ils n'avaient presque plus de d'essence à bord.
Oui, je pense que Rosenquist a eu même une pénalité parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Je pense que c'est pour le trafic. Ou
limite de vitesse. Limite de vitesse. Comme Scott McLaughlin aussi, un peu plus tôt aussi durant cette épreuve. Mais pour revenir en fait à Castroneves, en après-course, quand il disait qu'il utilisait le trafic, c'est parce que il faut profiter de l'aspiration. Et sa voiture a été tellement... C'est sûr, ce n'était pas au niveau de Ganassi, parce qu'il faut expliquer que Mayer Shank Racing utilise aussi tout l'aspect technique de Penske. De Andretti, pardon, je pense. C'est ça. C'est Andretti. Ils utilisent tout l'aspect technique de Andretti, qui a clairement les meilleurs, ou de très bonnes facilités, mais présentement n'est pas au niveau de Ganassi cette saison. Et avoir un pilote expérimenté en Castroneves qui sait comment bien gérer le trafic, même avec une voiture qui est moins rapide, je dis bien moins rapide parce que on s'entend que Palou, comme tu l'as dit, aurait dû gagner, ça aurait été un vainqueur tout aussi logique que Castroneves, mais l'expérience est là, et c'est de savoir dealer avec le trafic, l'aspiration. C'est ça.
Il s'est gardé pour la dernière coup parce que si il aurait dépassé, à chaque fois qu'il a dépassé, Palo, il était capable de le rattraper et de dépasser tout de suite. Fait qu'il a préparé son coup juste à la dernière minute.
C'est ça. C'est de le surprendre. Puis, ceux qui connaissent, ceux qui ont vu Castroneves savent que c'est un pilote qui est intelligent, mais qui est aussi, comment je dirais?
Très agile.
Très agile. Très agile. Surtout ça aussi. Alors, et en plus, avec les pneus qu'il avait, c'était presque 25 tours, entre autres pour Palou.
Il pensait que à peu près la même chose les deux, je pense.
C'est ça.
Les arrêts de Palou, Patoua et Elio, c'était comme à peu près la même, les mêmes tours. Tout le monde est sorti à la même place.
Et oui, exactement. Et je dois dire quand même que, comme on l'a dit, c'est de l'expérience. Et je sais qu'il y a toute cette controverse concernant 2002 lorsqu'il a gagné devant Paul Tracy qui était le vainqueur pour une histoire de drapeau jaune localisé, je pense, avant le dépassement, après, mais ça a été une controverse et Castroneves a gardé sa victoire, mais il est capable d'être comme tel un prédateur devant sa proie, de vraiment le chasser et d'attraper sa proie de manière très intelligente, mais de manière fougueuse. Et on l'a vu aussi avec Palou. Et je suis très content que de voir un pilote comme Castroneves gagner, parce que on a dit, bon, OK, il a 46 ans, évidemment, il y a tout ce mouvement jeunesse en IndyCar qui prend son ampleur, mais les vieux font encore le travail. Castroneves a 46 ans. Évidemment, tout le monde se référait au fait que Penske en 2017 a dit merci pour tes services, Elio, mais on n'a plus besoin de toi. Je ne pense pas qu'il fallait le percevoir comme ça, comme un gros doigt d'honneur à Roger Penske. Je pense que peut-être qu'il a sous-estimé sa capacité à conduire à plus de 40 ans. Et je pense qu'il l'a prouvé dans une voiture inférieure à une Penske. Alors, je crois que la victoire de Castroneves, elle est populaire autant du fait historique, parce que maintenant il est un quadruple vainqueur des Indy 500 au même niveau que Mears, Unser Senior et Foyt, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui est adoré de tout le monde. Et tu as vu Will Power, Simon Pagenaud, Juan Pablo Montoya qui sont allés le féliciter. C'était quelque chose d'exceptionnel. Même Roger Penske sur le podium est allé le féliciter. Et je ne pense pas que Castroneves avait de la rancune ou de la rancœur envers Penske de l'avoir laissé partir. Je pense que c'était une opportunité. Après tout, ça fait des années, deux décennies que Castroneves et Penske étaient ensemble. Moi, j'ai commencé à regarder l'IndyCar / Kart, c'était le duo Castroneves et De Ferran. C'était un des meilleurs duos en IndyCar. Alors, je pense que cette quatrième victoire, elle va passer à l'histoire. On va se souvenir, on va encore parler de cette course pendant des décennies à cause du retour des fans au Brickyard pour les 500 000.
Oui.
Le pilote qui gagne, la compétition.
Il va revenir l'année prochaine.
Il va revenir. Il va tenter sa chance pour gagner une cinquième fois. Donc, je pense que cette victoire, elle est due pour une bonne raison. Et je pense que, et même moi qui, après la course, j'avais d'autres choses à faire très importantes, mais je voulais pas, regarder les célébrations parce que j'avais encore le feeling de voir Castroneves gagner. C'est sûr, mon préféré, je voulais que Rinus VK gagne. Malheureusement, il a terminé huitième, mais ça m'était égal parce que Castroneves, c'est un pilote que tout le monde adore. Il a participé à Dance with the Stars sur ABC. Donc, Castroneves qui gagne, on va s'en souvenir pendant des années et des années. On a assisté à un moment historique, surtout 30 ans après la quatrième victoire, justement, de Mears sur ce même circuit. Alors, je pense qu'on a quelque chose de quoi parler un jour si jamais quelqu'un, si on explique à nos enfants comment c'est le Indy 500.
Oui. Ma fille était avec moi.
Donc, tu vois, au moins, elle a assisté à un moment historique et je pense qu'on est, on est loin d'oublier cela. Sinon, on parlait justement d'Alex Palou qui termine deuxième. Il est avec raison, un peu déçu, frustré de terminer deuxième, mais il concède quand même que il termine deuxième derrière le meilleur pilote pour gagner cette course. Ah, et le Castroneves. Je sais que ça fait mal, mais au moins il va partir. Il part d'Indianapolis avec la tête du championnat 2021.
Oui, mais ça fait mal. Comme le disait toujours Senna, c'est lui le douzième, c'est le premier qui a perdu. C'est lui qui a plus de mal. En plus, quand lui était pas là pour chance, il y a travaillé beaucoup. On l'a vu pendant presque la moitié de la course. Il y avait à peu près les trois dans la tête qui étaient là. Il était Palo, il était Elio, il était Pato Ouah aussi. Ouais. Ça fait très mal pour lui parce que il venait de loin, il a travaillé beaucoup, il avait pas la meilleure voiture non plus, lui, Pato Ouah, il réussit à tenir les coups dans la troisième place, mais il s'est fait prendre aussi dans les derniers tours.
Oui, exact, puis on l'a vu aussi, Les Ganassi ont été pas mal rapides, entre autres en oui. fin de semaine. Et Palou a profité vraiment d'une bonne stratégie, du timing aussi avec les deux voitures de les deux neutralisations de la course. La première causée par l'accident de Stephen Wilson dans la ligne des puits oui. et le deuxième causé par la roue mal vissée de Graham Wehall. Mais je pense que Palou, comme on l'a dit, c'était un vainqueur tout aussi logique que Castro Neves. Et je pense aussi, pour sa deuxième présence au Indy 500, oui. il s'est comporté presque comme un pilote qui avait l'expérience d'un Castro ouais. Neves. Alors...
Il était bien concentré, il a travaillé beaucoup, même si à chaque fois que Castro Neves réussit le dépasser, lui, et il le dépassait aussi, il répondait, il restait pas là juste à dire non, mais lui a gagné. Non, lui, il se battait aussi pour la victoire. Je pense que ça fait mal. Comme tu dis, c'est les nouvelles générations qui arrivent. Et je pense qu'en général, la course était très propre.
Oui, c'est ça. Ça a été une course très propre aussi. Donc, on n'a pas vu... On a vu personne...
Beaucoup d'erreurs, pas de... La seule chicane qu'on a vue, c'est Rossi et Dixon.
Oui, et ça aussi, on va en reparler de ce moment. Mais tu vois, tu parlais de coups, il n'y a pas eu de coups mauvais, mais apparemment, un des spotteux de Marco Andretti a dit que Santino Ferrucci, qu'on a tous bien connu dans le giron de la Formule 1, aurait essayé de sortir Pietro Fittipaldi aussi, mais...
Moi, j'ai pas remarqué.
Non, c'est ça. Ça n'a pas été diffusé, mais apparemment, c'est le... C'est une communication radio entre le spotter qui se trouve au haut des gradins du Indianapolis Motor Speedway et Marco Andretti. Mais ça, c'était peut-être le seul coup, je dirais, entre guillemets, un peu salaud. Mais on va pas porter attention au Tony Rigard. D'ailleurs, Ferrucci a terminé sixième alors qu'il partait de loin, en fait, du milieu de peloton. Donc, quand même, félicitations. Mais... pour revenir à Palou, évidemment, je pense que, et il le dit aussi, c'est la course automobile. Ouais. Quand ça fait mal, c'est bon parce que il sait qu'il y a quelque chose de mieux. On sait qu'il a gagné la première course de la saison en Alabama. Je pense que ça aurait été une victoire exceptionnelle de sa part, mais deuxième dans la course la plus difficile à gagner. Avec ça, tu sais maintenant comment gagner le Indy 500. Je pense qu'il a tiré ses leçons de cette expérience et je pense que ça a été quelque chose de relativement intéressant. Et je me dis, lorsque la IndyCar retournera sur le circuit en ovale, je pense que c'est à... Saint-Louis, en fait, au mois d'août, il va revenir et il va comprendre ce que c'est courir en ovale aussi. Alors, je suis très content pour lui, honnêtement.
Oui, c'est sûr, on est content pour lui. 12e, c'est pas n'importe quoi. Mais on reste avec les petits goûts
d'amertume.
Oui, ça fait très mal. C'est comme Felipe Massa 2008. Oui, Hamilton y a gagné à la fin. La vérité quand même, mais on restait con ce petit goût de il avait bien s'échappé.
Ouais, mais disons que dans le cas de Palou, c'est normal. Il n'a pas... Ce n'est pas comme, par exemple, Massa à 27 ans qui a enfin sa chance de gagner le championnat. Palou, oui. Et tu vois, quand Castro Neves a gagné sa première course en 2001 au Indy 500, Palou avait 4 ans. Donc, imagine, il est allé au Japon. Oui. Il a fait des courses en Europe et là il devient une des têtes d'affiche maintenant. Il commence à devenir une tête d'affiche ouais. en IndyCar. justement à cause de son pilotage, et maintenant il va le devenir encore plus avec le Indy 500, sa belle deuxième place, et comme on l'a dit, il mène le championnat.
Et tu sais quoi quelque chose de spécial qu'il a, jusqu'à maintenant, il a réussi plus que son compatriote qui essayait de gagner la triple couronne.
Oh.
Ça a été, comment je peux dire, Palou, lui, il est catalan.
Oui.
Palou, lui, est catalan. Avant, il y avait un pilote aussi. Oriol Servia, qui était catalan, mais il n'était pas bien aimé des Espagnols. Mais on ne parlait pas de course là-bas à cause de lui. Non. Indicat, ils ont commencé à parler jusqu'à Alonso y est arrivé.
Ouais, excuse-moi. Mais... c'est parce que il y a eu un coup sale, parce qu'on regarde aussi le hockey, donc un coup salaud qui m'a.
Oui, sorti, c'est
donc,
ça.
Mais oui, vas-y.
Et les gars, Popalo, c'était très bien, mais c'était dommage aussi parce que lui, après ce qu'il gagnait, l'Espagne, il a même pas remarqué ça dans la première page après.
Oh oui. Oh, mais écoute, ça aurait été une belle victoire. Puis même Oriol Servia était derrière lui.
Oui.
Ah oui, donc, écoute, c'était exceptionnel. Donc,
oui,
je suis content.
Aussi exceptionnel pour lui, juste parce que lui, il a commencé comme sa carrière professionnelle et IndyCar. Il n'a même pas fait les F2, il n'a même pas fait il a fait juste un peu la F3, il a fait après la Super Formule, il était revenu tout directement à l'IndyCar. Il a fait son travail, il s'est fait remarquer. Et maintenant, lui, il a la place. Il a gagné la place.
Je suis super content pour lui. Et écoute, l'année prochaine. Il va comprendre maintenant ce que c'est de rouler derrière des retardataires et de profiter de l'occasion. Un peu ce que J.R. Hildebrand a appris lorsque il se dirigeait vers la victoire il y a 10 ans de cela. Il menait la course, il allait devenir ce que Alexander Rossi a fait aussi en 2016, gagner l'Indy 500, sa première présence. Et malheureusement, il a essayé de dépasser un retardataire par l'extérieur et il a tapé le mur jusqu'à ce que le regretté Dan Weldon franchit la ligne d'arrivée pour gagner. Hildebrand a fini deuxième. Donc, je me dis, Palou, maintenant, je pense qu'il ne voulait pas avoir ce même feeling aussi. Donc, je crois que c'est assez bien aussi dans la situation.
Non, lui, il s'est bien sorti de la situation, mais il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Et lui, c'était pas n'importe qui venait derrière lui, parce que c'était quand même une belle course, même si on reste toujours, on n'oublie pas que c'était peut-être la victoire, mais c'est ça, il s'est échappé.
Ouais, exact. Aïe, ouais, non, c'est assez incroyable, alors, c'est fou, je lui souhaite quelque chose de bien. On va passer maintenant on va continuer dans le mouvement jeunesse, on va parler de Pato Award, justement, qui termine 4e et qui était dans le coup pour gagner cette course, il était dans le coup, il se battait pour la victoire, mais en fin de compte, il a juste manqué de vitesse au final pour se faire dépasser par Simon Pagenaud, qui est arrivé de nulle part pour terminer dans le top 3. Alors, pour Aho McLaren, avec un Pato Award qui est flamboyant cette saison, avec un Juan Pablo Montoya qui finit 9e, avec l'expérience qu'il a au Indy 500, ça aurait pu être un coup, c'était un coup à jouer pour Aho McLaren, et malheureusement,
Yo pense que c'est là la red de Rosenbix que.
Ouais, qui a fait qui a joué.
Oui, qui a fait que tout était raté parce que il venait aussi de loin, pas trop, il est sorti, je pense que 14 ou quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais, il partait de la 12e place.
12e, oui, et Montoya, il est parti 24.
Ouais, à peu près.
Il est très loin. C'est là aussi parce que Montoya, il a beaucoup d'expérience, mais. Et c'est la qualification qui a fait très mal là, parce que lui a quand même réussi à gérer son retard, mais ça n'a pas suffi.
Mm-hmm.
Ça n'a pas suffi pour s'approcher non plus. Mais pour pas tout voir, il était plus proche, il était presque là. Mais c'est comme tu dis, il n'y avait pas. Lui, c'était différent que Palo. Oui, il était presque, mais il n'y avait pas la voiture à la fin pour réussir. Et à un moment donné, c'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, peut-être Rosenquist utilise la stratégie ouais. F1.
Ouais.
J'ai dit, peut-être il fait ça. Moi, quand il était en avant, j'ai dit, au moins, il va retenir tout le monde un petit peu.
Ah oui, clairement. Écoute.
Mais ça n'a pas marché. En plus, c'était raté au complet. C'était pire encore.
Mm-hmm. Exactement. Puis, je trouve. Puis, et tu sais quoi, Anna Maria? Lando Norris était l'invité de Sky Sports F1 qui diffusait la course en Angleterre. Et ce qui est drôle, c'est parce que l'année dernière. Presque à pareille date, il y avait la course virtuelle organisée par l'IndyCar et Pagenaud avait. Oui, on en avait parlé. Il avait carrément fait exprès pour le sortir parce qu'il se dirigeait vers la victoire. Et ouais. L'ironie du sort, c'est qu'un an plus tard, Pagenaud finit. Il finit devant un pilote McLaren. Donc, ouais. J'imagine mal un peu le malaise de Norris de parler de Pagenaud, non seulement parce que ça lui rappelle un mauvais flashback, et oui. de voir le Français terminer devant son collègue chez McLaren, en fait.
Oui, aussi que cette fois-ci, quand il y avait la course virtuelle, c'est ça que les choses se sont. Je ne sais pas, le monde était trop sensible avec le confinement qui venait d'arriver, j'imagine. Mais il n'était pas content parce que c'est ce qu'il disait, Pagenaud, c'est comme Jimamou, c'est pas pour elle.
Ouais, mais en même temps, c'est une.
C'est ça qu'il disait, parce que lui, il prenait ça comme.
À la légère.
Je comprends, parce que c'est ça. Moi, s'il faut jouer, moi, je dis, mais Jésus, c'est pas pour elle, je suis pas sans souci. Oui, pendant que les pilotes jouent comme Norris, peut-être Roux, ils vont prendre ça trop mm-hmm. sérieux, pour elle, mais. Et c'était là le malaise de Norris parce que lui il disait comme quoi mais peu importe c'est tout juste c'est pas pour vrai mais je pense qu'après lui Pagenaud il avait pas le goût de faire encore les
ouais mais et justement on va parler de Simon Pagenaud parce que le Français termine troisième mais à un moment donné il est arrivé comme un cheveu sur la soupe dans la lutte pour la victoire. Donc j'étais très surpris de voir comment ça s'appelle de voir le Français sur la Penske venir jouer un peu les troubles faites dans cette
Il venait de nulle part, je sais pas, il a paru dans les dernières ben c'est ça quand le trafic il a paru que tout est pour moi c'est la faute de Rosenbuis que
Ben, c'est ça aussi, c'est parce que.
Il a fait comme l'effet accordéon, que tout le monde, avant, tout le monde roulait très bien, et à un moment donné, tout le monde était comme compacté.
Mm-hmm.
Et c'est là qu'il a paru, Pagenaud de nulle part. Il a dépassé à la dernière minute, c'est sûr que lui aussi a beaucoup d'expérience en comparaison à Pato Howard. Et mm-hmm. en plus, Pato Howard, il avait, il avait, il, 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 il est resté pas beaucoup à donner. Son auto, il avait pas la vitesse.
Ouais, exact. Et c'est ça aussi qui a un peu avantagé aussi Pagenaud. Il faut pas oublier que Pagenaud a gagné en 2019 les 500 000 d'Indianapolis. Alors ça l'a aidé aussi, comme un peu comme Castroneves de d'utiliser le trafic pour se rapprocher du groupe de tête. Alors vraiment, je pense que ça a été la grande surprise en fait de ces derniers tours de ces 500 000 d'Indianapolis. On va continuer toujours dans le mouvement jeunesse. Ça va me faire un peu mal de parler de ça, mais Rinus Vicky qui menait la course pour Ed Carpenter Racing, menait la course, était un candidat potentiel à la victoire, mais termine huitième au final. Ça me fait mal, je suis le président, entre guillemets, le président du fan club de RVK. Je sais pas comment expliquer cette chute, parce qu'il a fini huitième au final. Je sais pas comment tu pourrais expliquer, est-ce que ça a été la stratégie en fin de course qui a été problématique pour le Néerlandais?
C'est vrai, peut-être la stratégie, peut-être l'expérience, comme tu viens de dire, il y avait des pilotes qui avaient une grande expérience pour gérer la course aussi, et il ne faut pas l'oublier. Et la Indy, ça se gagne pas de premier coup. Mm-hmm. Disons qu'on dit, les courses ne se gagnent pas au premier tour. Il a dit, le jour avant, j'écoutais Montoya qui parlait, il disait, au moins pour avoir la chance de gagner, il faut que quand tu es à 60% de la course, il faut que tu te retrouves au moins dans les top 15. Mm-hmm. Et pour avoir la grosse chance, il faut que tu te retrouves à quand il manque 30 tours, il faut que tu sois au moins dans les premiers 5 en train de te battre.
Ouais. Mais quand même, Vicky, on l'a vu, c'est un pilote qui est très rapide et c'est pas pour rien. Il s'est qualifié troisième sur la première ligne. Sur la première ligne aux côtés de Scott Dixon et de Colton Herta. Alors. Ouais,
Mais tu vois qu'est-ce qui s'est passé avec la première ligne, elle est disparue.
Elle a disparu. Et justement, Colton Herta aussi, ça aussi c'est un grand mystère parce que à un moment donné, il était parmi avec VK et Dixon, un des prétendants pour la victoire dans la première partie de la course et dans la deuxième, il a disparu complètement. Donc je sais pas si c'est à cause de la deuxième.
Qu'il y avait, et Colton Herta, c'est pas lui qui a eu un problème dans l'arrêt aussi, qui s'est gâché toute la.
Ben, peut-être. Peut-être. Oui, parce que
je sais. Il y a eu un problème dans les stands parce qu'il y avait. En premier, c'était Rossi Dixon avec l'accident qu'il y a eu avant. Et aussi, Simona de Silvestro, il y a eu un accrochage dans les. Dans l'entrée à l'estand aussi.
Ouais.
Et Hertan, je pense que lui aussi, il y a eu des problèmes dans l'arrêt. À cause de l'arrêt, il y a eu quelque chose que ça fait qu'il est parti hors de top 5.
Ouais. Mais je sais pas. Peut-être c'est à cause aussi de la deuxième neutralisation qui a peut-être anéanti ses chances parce que je pense que c'était une stratégie très bonne aussi. Mais Herta et VK, pour moi, peut-être ce sont les grands perdants de cette course aussi. Et on va en parler entre autres Scott Dixon et oh boy. Lui, ça a été la grande malchance parce que avec l'accident de Stefan Wilson dans la ligne des puits, ça a complètement fermé la ligne des puits et tous ceux qui voulaient s'arrêter pour un ravitaillement d'essence ont été obligés de faire un tour complet. Et quand ça a été le cas, malheureusement pour Dixon, sa voiture s'est arrêtée, donc ils ont été obligés de la redémarrer. Et Alex Rossi a eu la même malchance, malheureusement. C'est un manque d'essence. Donc, ils ont perdu un tour sur le meneur. Et on disait que c'était carrément fini. Évidemment, on parle évidemment de un tour, mais Jacques Villeneuve a gagné le Indy 500 avec deux tours de retard, en passant.
Oui, mais lui aussi était très, 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 très intelligent aussi pour gagner la course.
C'est ça.
C'était pas juste avec la vitesse, avec la tête aussi.
Mais dans le cas de Rossi et surtout de Dixon, disons que ça a été un peu plus compliqué parce que il y a eu juste deux neutralisations. La première dont ils ont été appliqués, puis la deuxième avec Weyhall. Et je pense que c'est ce qui a un peu ruiné leur chance parce que il fallait qu'ils aient dépassé le meneur pour pouvoir revenir sur le tour du meneur et ça a été très compliqué pour Rossi et Dixon. Et tu sais, donc le geste quand Rossi faisait à Dixon pour dire let's go, on y va, c'était de pousser à fond. Puis il y a Alex Rossi qui est frustré en piste. C'est un Rossi qui est dangereux et qui est capable du meilleur. Aussi du pire, malheureusement, on l'a vu quand il y a des problèmes, il pousse un peu trop, mais c'est un pilote qui pousse à fond avec tellement d'intelligence. Parfois, ça joue contre lui, mais cette fois-ci, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc,
ça
n'a
rien donné.
Ça rien donné.
Je ne sais pas, j'ai trouvé la course, comme je t'ai dit, était très propre. On dirait que les déconfinements, les publics, ça faisait que les pilotes étaient, je pense, un peu très fébriles parce qu'il y avait les publics derrière. Il n'y avait pas beaucoup d'erreurs, il n'y avait pas d'accidents, il n'y avait pas de pilotes qui touchaient les murs comme d'habitude, qui a toujours des drapeaux rouges, des drapeaux pendant la course. Fait que...
Ouais, mais tu vois, et c'est ça aussi, c'est un record parce que c'est la course la plus rapide de l'histoire des 500 000 en 2h37.
Oui, un record... parce qu'il n'était même pas arrêté. C'est la première fois que je reste en face de la télé sans bouger presque pendant toute la course. Oui, parce que d'habitude, je mets ça et je fais mes choses et après, je reviens parce que c'est long quand même.
Ouais, c'est quand même une course longue. C'est à peu près 3 heures avec évidemment quelques neutralisations aussi de n'importe quelle manière. Tu parlais de déconfinement et de fans. Je pense que les fans en ont eu pour leur argent, non seulement à cause de Helio Castroneves, mais aussi à cause de Connor Daly. Daly est un natif d'Indianapolis. Son père, Derek, est un ex-pilote d'IndyCar et de Formule 1. Donc, quand il y avait la présentation des pilotes, il a reçu la plus grosse ovation. Mais quand il a mené la course, je pense que ça a été le pilote qui a mené le plus grand nombre de tours durant cette épreuve, on l'a entendu, il y a une ovation monstre. Et je pense que c'est ça qui me manquait dans ces courses. C'était d'entendre la passion des fans durant la course. Mais malheureusement, les espoirs de victoire de Connor Daly se sont évanouis lorsque il y a eu l'accident de Weyhall avec la roue mal attachée à la sortie de la ligne des puits et la roue est allée frapper le museau de la voiture de Daly. Évidemment, on a vu la marque du pneu sur le museau, mais ça a entraîné des pertes aérodynamiques relativement importantes, ce qui a fait en sorte qu'il ne pouvait plus se battre pour la victoire. Donc, il a perdu du terrain. Et je pense que Daly aurait définitivement pu faire partie des vainqueurs des 500 000. On dirait... Quand on en parle, de Castroneves, de Palou, de Howard, de Herta, de VK, de Pagenaud, même de Daly, et à la limite aussi Graham Rahal avant son accident, qui était aussi dans le coup. On avait peut-être une dizaine de vainqueurs potentiels du Indy 500, et je pense que Connor Daly était un de ceux qui était le plus propice à cette victoire. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, lui aussi, mais il était comme disons, malchanceux, lui,
Ouais.
parce que c'était même pas sa faute. Et aussi, il faut faire une petite parenthèse parce que c'est la première, je pense, que les autos sont avec l'aéroscreen.
Ouais.
C'est ça. Et il y avait la discussion de que oui, ça touchait les museaux, mais il n'y a pas touché l'aéroscreen. Il y a qui dit que oui, qui a touché l'aéroscreen. En tout cas, pour lui, ça doit être rassurant, savoir qu'il y avait quelque chose qui protégeait sa tête au moins.
Oui, exactement.
Parce que la roue a juste touché presque et on sait qu'il y a déjà eu de gros accidents IndyCar avec des choses qui survolent et qui finissent pour faire le malheur.
C'est ça, c'est tellement, mais c'est tellement ça aussi. Tu vois, je pense que même si ça, même que la, comme tu l'as dit, ça a touché le museau, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça aurait pu donner aussi. Donc, moi, je me dis, je l'ai mentionné aussi sur Twitter. En temps normal, si ce genre de truc s'était produit en Formule 1, Ray Hall, Leatherman, Lanigan auraient reçu une pénalité. Une amende, devrais-je dire, parce que ça, c'était une sortie dangereuse, la roue était mal fixée, et en plus, sur un virage très rapide, on aurait pu avoir, écoute, c'était pas la journée en plus pour avoir un tel incident comme ça, comme je l'ai dit avec la mort de Jason Dupasquier en MotoGP, en Moto3, je veux dire, c'était pas le moment d'avoir un incident de ce genre qui nous ferait passer à de mauvais souvenirs qu'on a vus en IndyCar. Donc, je suis très content que ce truc ne se soit juste limité à toucher le museau, mais ça a eu des répercussions sur la course de Daly qui faisait très bien. Écoute, Ed Carpenter Racing en général, parce qu'il y a VK, il y a Daly, mais il y a aussi Ed Carpenter, qui était là dans la course, qui était aussi dans le lot, mais à cause d'un arrêt au puits un peu lent, a perdu toutes ses chances d'aller chercher un très bon résultat. Alors, je trouve que Daly a très bien fait, et c'est un pilote qui a roulé sa bosse en IndyCar, autant à temps partiel que maintenant à temps plein. Alors, je trouve que cette course à IndyCar vraiment lui a peut-être donné des ailes,
Ouais. Mais
mais
c'est sûr, mais c'est aussi, il le donne plus que tout, c'est l'expérience, parce qu'on dit que la IndyCar, ça n'a rien à voir avec à peu près comment ça se joue dans les championnats d'Indy, parce que chaque pilote, individuellement, il veut gagner sa course.
Exactement. Puis
Et chaque
les points sont doublés en plus pour les
Oui, en plus,
Indy.
c'est beaucoup de points pour les championnats. Il faut pas oublier qu'il y a une grosse bourse aussi.
Aussi. Et
Yes.
Daly aussi. Et évidemment, question de financement, c'est pas seulement qu'en Formule 1 qu'on en parle. En IndyCar aussi, il y en a parce que, évidemment, tu te fies à tes sponsors pour
Oui.
obtenir un volant. Donc, évidemment, cette bourse aurait pu aider aussi Conor Daly pour, par exemple, sécuriser un volant, même si je ne me trompe, si je me trompe pas. Daly, tu vois, il faisait juste les 500 000 d'Indianapolis cette saison. Donc,
Ouais.
je l'ai vu, il a souvent fait des courses à temps partiel en IndyCar. Donc, je sais pas, est-ce que
Oui,
ça aurait
c'est
peut-être
ça, parce
changé la
que
donne?
oui, ça aurait aidé beaucoup parce que quand tu vois un pilote qui fait juste des courses à temps partiel, c'est parce qu'il n'a pas réussi à faire les budgets, parce que aussi en IndyCar, il faut un budget sponsor, n'importe quoi, pour avoir la voiture.
Exactement. Puis, je pense aussi, tu vois, dans les circonstances, Conor Daly, moi, je pense que c'était. Il est passé par l'Europe, par la GP2, par la GP3 aussi, et il est revenu en IndyCar. Il est allé en IndyCar, il s'est adapté. Et je pense que cette course, je pense que ça lui aurait donné beaucoup plus d'ailes aussi. Et aussi, parfois, il y en a qui font du pilotage à temps partiel parce qu'ils ont ils participent à d'autres programmes. Et Daly, je pense, participe aussi à la NASCAR Truck Series aussi, si je me trompe pas. Alors, peut-être que ça explique aussi pourquoi on le voit. Comme Santino Ferrucci, qui participe seulement aux 500 000 d'Indianapolis, actuellement fait seulement... Il fait les 500 000, mais il fait aussi un programme à temps partiel en NASCAR Xfinity Series, ce genre-là. Pardon, deuxième division de NASCAR. Alors, ça aussi, c'est peut-être pour un choix personnel aussi, parce qu'il veut faire plus de compétitions aussi.
Oui, la majorité des temps, c'est parce que s'il réussit pas à faire les budgets pour faire à temps plein la IndyCar, mais c'est ça. Ils font des courses qui donnent le plus de
visibilité.
De visibilité aussi qui pour ramasser l'argent parce qu'il y a des vieux pilotes qui faisaient juste ça. Ils vont faire la Indy 500 et avec ça, ils vont rester toute l'année.
Ouais, exactement. On va parler maintenant de la recrue de la course qui était Scott McLaughlin, mais disons que le pilote néo-zélandais qui court pour Penske à temps plein justement cette saison ne l'a pas eu facile et je pense qu'il l'a découvert aussi et la ligne des puits ça a été un problème durant cette course, je sais pas si tu l'as remarqué.
Oui, la ligne des puits je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais la course comme telle était très 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 propre, mais tout s'est passé à la ligne des courses, les accrochages. On est habitué quand même de voir des arrêts un peu brouillons à la IndyCar, mais tu vois que les mécaniciens ils sont très bien entraînés pour éviter les autres.
Ah oui, c'est clair. Et tu vois, c'est ce qui a coûté peut-être un top 10 à McLaughlin parce qu'il termine 20e, mais il a une pénalité de drive-through pour excès de vitesse. Alors ça, c'était complètement sa faute. Mais je pense que pour sa première course aux 500 000 d'Indianapolis, il aurait pu terminer facilement dans le top 10. Et je crois que même s'il finit bien devant Pietro Fittipaldi, qui est l'autre recrue, qui a terminé 25e, disons que McLaughlin aurait pu faire mieux. Je pense que il avait relativement une bonne stratégie, je crois, dans cette course. Alors, je sais pas. J'ai comme l'impression que c'est l'expérience, certes, mais dans son cas, je pense que c'est plus une erreur un peu bête de sa part. Je crois qu'il aurait pu finir aisément dans le top 10, à mon avis.
Mais c'est la première fois parce que tu vois, et comme Marcus Ericsson, que.
Ah oui.
Il est arrivé 11e quand même. Mais l'année passée, lui, il était bien, bien en avant, bien dans les top 5, je pense. Et il ne sortait pas des top 10, mais il a fait une erreur qui a coûté la course en rentrant aussi dans la red. Il a accroché les murs et c'est là qu'il s'est fini sa course l'année passée.
Ouais,
c'est pour ça que j'ai dit toujours l'expérience, peut-être le stress, je sais pas, mais.
Mais c'est ça. Comme j'ai dit, je pense que McLaughlin aurait pu facilement terminer dans le top 10. Personnellement, je crois que c'était pas vraiment. C'était peut-être une course à oublier pour de sa part, mais il va en tirer de grandes leçons. On va parler aussi de Simona de Silvestro, pardon, qui elle aussi a été une des prisonnières, a été une prisonnière aussi de cette fameuse entrée de la ligne des puits aussi. Je pense que je l'ai manqué, mais elle a abandonné aussi, je pense,
oui,
à cause
Elle a abandonné. C'était la fin après l'accrochage, c'était fini.
Ouais.
Il a accroché les mots et c'est fini, mais il venait quand même en train de récupérer des places parce qu'il avait sorti la dernière. Et à ce moment donné, il se retrouvait au moins dans les top 20.
Exactement. Dans le top 20, en plus, tu vois.
Il était dans le top 20, mais c'est ça, la rentrée au puits, c'était comme, il a raté complètement. C'est là que c'était quand même son erreur. Mm-hmm. Il a bien travaillé, l'équipe, il a bien travaillé, mais c'est ça.
Ouais, exactement. Donc, et vraiment chapeau à Pareta Autosport pour tout l'engagement que ça a pris. Une équipe majoritairement féminine. On en avait parlé lors de notre dernier épisode de podcast. Oui. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel à faire. Et j'espère que ça ne va pas se limiter seulement avec les 500 000 d'Indianapolis. Peut-être même avec une saison à temps partiel en IndyCar. Je crois qu'il y a un potentiel. De Silvestro, c'est pas une mauvaise pilote. Au contraire, je pense qu'elle a quand même bien fait lors de cette course. Alors, je dois dire, j'ai été relativement satisfait du travail de Pareta Autosport. Je crois que pour Beth Pareta, la propriétaire de l'écurie, c'est une énorme expérience et une bonne visibilité aussi dans un des événements sportifs les plus populaires aux États-Unis et au monde aussi. Alors, je suis très content.
Oui, il faut que ça continue aussi. Il t'avait parlé de l'équipe complètement féminine qu'il y a
en Argentine.
Mais on espère, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fans, il n'y a pas beaucoup de fans encore dans l'étape d'aller à IndyCar ou à Formule 1, mais j'espère que ça au moins ça donne le goût de continuer à essayer. Okay. On a déjà eu des fans dans la Indy 500.
Ouais.
Je pense que c'est Danica Patrick qui a fait les meilleures performances.
Ouais,
quatrième.
Ouais, Danica Patrick qui avait réalisé effectivement la meilleure performance au Indy 500. Je pense qu'effectivement, elle avait fini quatrième. Je pense que c'était en 2005.
Je pense qu'il a fini quatrième. Premier Indy 500.
Oui, je te dis ça.
Parce qu'il a gagné les titres de rookie.
Oui, oui.
Le meilleur rookie quand il restait quatrième dans la course.
Exactement. Ouais. Exactement. Je te dirais. Il y en a eu quand même beaucoup.
Il y en a eu quand même parce que l'année passée, il était Pipaman aussi, qu'il essayait toujours de. Je pense qu'il a fait deux ou trois fois la Indy 500.
Ouais. Je te confirme, Danica Patrick, quatrième, son meilleur résultat. Sinon, tu as Lynn James qui avait fini sixième et Sarah Fisher qui avait terminé neuvième. Anna Beatriz avait fini treizième. Janet Guthrie, quatorzième. La première femme à participer à se qualifier même pour les 500 000 d'Indianapolis. Tu avais aussi Janet Guthrie, Simona de Silvestro, Pippa Mann, Milka Duno et Catherine Legge aussi. Donc, ça, ce sont les femmes qui ont participé ou qui ont tenté de se qualifier pour les 500 000 d'Indianapolis.
Oui, on espère au moins qu'on voit plus de fans, au moins aussi dans la F1, qu'on parle beaucoup de diversité, d'inclusion, mais on continue à on continue à pas avoir de fans en F1.
Ça s'en vient un jour, je le souhaite.
Mais on parle beaucoup d'inclusion, c'est ça que je des fois dis, Hamilton, il parle beaucoup d'inclusion, mais on oublie qu'on n'a eu jamais une fan à temps plein en F1. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas, c'est parce qu'il manque beaucoup de comment dit-on?
Il manque de l'argent, mais aussi de la volonté.
Comment?
De l'argent et de la volonté aussi.
Et de l'argent, de la volonté, de ses sponsors, des mondes qui croient. Mais parce que j'ai dit, quand tu as une équipe comme, je ne sais pas, comme Haas, et avant, il était au moins Minardi, c'est des équipes où Minardi, c'est une équipe où on voyait toujours des nouvelles pilotes apparaître. Des fois, ils disparaissaient, des fois, ils étaient en Alonso. Mais c'était des petites écuries qu'on savait qu'ils étaient là, pas pour se battre en avant, au moins pour être comme une porte d'entrée dans la F1.
Ouais.
Et maintenant, c'est pas pareil, c'est ça. Et c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de fans qui essayent, mais c'est juste parce que quand les fans y arrivent à F4, F3, et c'est ça.
Ça s'arrête là.
Il n'y a pas beaucoup.
Ça s'arrête là, exactement.
Ça s'arrête là.
Anna Maria, j'ai une question à te poser. Oui. Si on te donne des billets pour la course de ton choix, on te demande, OK, je t'offre, c'est tout est payé, la bouffe, ouais, exactement, le voyage est tout payé. On t'offre le choix d'aller au Grand Prix de Monaco, au 24 heures du Mans, au 500 000 d'Indianapolis, au Daytona 500. Quelle course parmi ces quatre tu choisirais?
Ah non, j'ai choisi Indy 500.
Indy 500, pourquoi?
Oui. Mais parce que je vais m'amuser.
C'est ça.
Mais c'est sûr que, oh, je dis, si quelqu'un paye tout parce que j'aille à Monaco, oui, je vais m'amuser, mais pas avec la course.
Ouais.
Mais si tu me donnes les choix, Indy 500, Indianapolis et à Monaco, mais c'est Indianapolis qui va gagner.
Ouais.
Et là, les max, non, parce que ça, c'est trop long, je ne suis pas prêt pour faire les campings. Et tout ça.
Ah ouais, non, je suis d'accord.
Non.
Moi, je suis d'accord, moi aussi.
Indy 500, et si tu me dis... Monza, c'est autre chose.
Ouais, mais disons que j'ai pris parce que ce sont des...
disons, la triple couronne.
La triple couronne, ce qui fait partie de la triple couronne. Donc,
ouais.
Moi aussi, j'aimerais vivre l'expérience des 500 000 d'Indianapolis parce que c'est une...
Oh yo, il faut que je les fasse.
Ouais, moi aussi. Mais avant, il faut que j'aille voir le Grand Prix des États-Unis à Austin.
Ouais.
OK, donc...
Miami.
un jour, on ira là-bas. Sinon, dans les autres, on va donner les résultats dans les autres courses parce qu'il n'y avait pas seulement que les Indy 500. On parlait de MotoGP, de moto et de courses précieuses. C'était le Grand Prix d'Italie à Mugello et c'est Fabio Quartararo sur la Yamaha qui a gagné la course. Devant Miguel Oliveira de KTM et Johan Mir sur la Suzuki. Le français Johan Zarco termine quatrième et Marc Marquez a chuté, tout comme Francesco Pecco Bagnaia qui menait la course juste avant son accrochage. Au classement des pilotes, Quartararo mène avec 105 points, Zarco suit en deuxième place avec 81 et Bagnaia en a 79. Donc le top 3 de MotoGP jusqu'à présent. La prochaine épreuve, c'est le Grand Prix de Catalogne à Barcelone ce week-end. Donc en même temps, juste avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Sinon, on parlait de NASCAR... Carl Larson a gagné le Coca-Cola 600, la course la plus longue de NASCAR pour Hendrick Motorsport, qui passe aussi à l'histoire avec, je pense, la 269e victoire pour l'équipe qui a vu passer de grands pilotes, entre autres Jeff Gordon, Jimmy Johnson, entre autres. Alors, Larson a permis à Hendrick Motorsport de passer à l'histoire au Coca-Cola 600, donc qui est aussi une course phare avec le Daytona 500 en termes de au NASCAR. Et finalement, il y avait la Extreme E qui avait lieu au Lac Rose, l'Océan Esprit au Sénégal. Et je dis pas ça avec parce que je suis d'origine sénégalaise, évidemment, mais c'est parce que c'est la première fois que je vois proprement dit de la course sur mes origines. Et c'est l'équipe Rosberg X Racing avec Johan Kristoffersen et Molly Taylor qui ont remporté la course qui avait lieu au Lac Rose. Oui, c'est un Lac Rose à cause de toutes les particules de sel qui se retrouvent dans le lac, en fait. Félicitations à Rosberg X-Racing pour leur victoire. Alors, c'est ce qui complète le tour d'horizon du Indy 500 2021 du bulletin GP. Alors, évidemment, on se retrouve dimanche pour l'émission d'après-course parce que c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le retour dans les rues de Bakou et à huis clos, je pense. C'est confirmé que ça va être à huis clos. On aura notre émission d'après-course dimanche. Oui, exact. Dimanche à vers 10h30, heure du Québec, 16h30, heure de France. Évidemment, s'il n'y a pas de drapeau rouge qui ralentit la course, on se le souhaite. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Et vous pouvez nous lire aussi sur bulletingp.com pour lire les chroniques, écouter les anciens épisodes de podcast. Et nous sommes aussi disponibles sur toutes les plateformes de podcast préférées. Alors, Anna-Maria, un gros merci d'avoir été là.
Merci à toi et à tous ceux qui nous écoutent.
Ça nous a fait plaisir. Alors, mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et je vous souhaite une excellente fin de semaine de Grand Prix, peu importe où vous êtes. Et rappelez-vous, la course automobile, c'est bien, mais ça reste un sport dangereux. Salut tout le monde!